Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ça vous va si on commence par un temps d'enseignement et puis ensuite on finira par la méditation? Donc j'espère pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines que le week-end vous a plu avec la venue de Ringo Rinpoche. Je vais essayer un peu de vous retranscrire ce dont a été question. Donc il est revenu sur les fondamentaux finalement. On étudie un texte, on lui avait proposé d'enseigner sur les 4 dharmas de Gampopa, et qui est très concis. Comme tous les textes très profonds, ils sont très concis, et en fait il a réussi à nous présenter ça de manière hyper accessible, simple. Vraiment c'était du petit lait quoi. Il est revenu sur les 8 dharmas mondains. Enfin voilà, des choses très classiques, mais il a glissé ça, c'était très chouette. Donc déjà le refuge, peut-être ça peut être intéressant de revenir dessus parce que Daniel prend refuge demain. Lama va sans doute en parler, je suppose. Mais c'est vrai que quand on récite cette prière de refuge, qui est très rapide, parfois ça peut être intéressant de prendre le temps de se laisser pénétrer par le sens de cette prière. Voilà, le refuge dans le Dharma, le Bouddha, le Dharma, la Sangha, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très profond comme prière. Le refuge dans le Bouddha, on ne prend pas refuge dans le Bouddha historique. Dans le Bouddha Shakyamuni, lui n'a pas le pouvoir de nous sauver. Quand on dit « je prends refuge dans le Bouddha », c'est notre aspiration à l'éveil qui est un refuge. C'est « j'aspire ». Le refuge dans le Bouddha, c'est l'éveil. J'aspire à l'éveil comme seul refuge contre la souffrance. C'est quand on comprend que... on voit qu'on ne peut pas trouver dans le monde quelque chose qui soit un refuge ultime. Même si parfois on conçoit le bonheur en termes de succès. Le succès, derrière le succès, on peut mettre voilà, tout ce qui est tout ce que constitue ce qu'on appelle les dharmas mondains. Le gain, la popularité, le succès, la renommée, voilà, toutes ces choses-là. Ça peut nous apporter des satisfactions, mais ça ne peut pas constituer en soi un refuge ultime parce que on va se rendre compte que toutes ces choses-là sont soumises à l'impermanence. Et donc, si c'est soumis à l'impermanence, ça veut dire que du jour au lendemain, la richesse, la popularité, la renommée, toutes ces choses-là, non seulement elles peuvent disparaître, donc on peut tout perdre, mais en plus on peut tout perdre en un instant. Ça c'est important aussi, c'est que même si ça me paraît quelque chose de très solide, et même si on a investi énormément d'énergie dedans, il se trouve que ces choses-là, non seulement on peut tout perdre, mais en plus voilà, cette idée, on peut tout perdre en un instant, on peut tout perdre dès demain, il suffit d'une circonstance pour que quelque part tout s'écroule. Et voilà, Ringo Rinpoche nous invitait à observer, voilà, si on a bien misé sur le bon cheval quand on aspire au bonheur, quand on aspire voilà, au bonheur, qu'est-ce qu'on entend par bonheur? réinterroger notre notion du bonheur. Est-ce qu'on va vraiment vers l'éveil, c'est-à-dire un bonheur qui est pas soumis aux circonstances, un bonheur ultime, une véritable paix, ou notre objet de bonheur, est-ce que justement il va résister au crash test de l'impermanence? Se poser la question, aujourd'hui c'est quoi mon bonheur? Qu'est-ce que je cherche exactement? Et est-ce que c'est vraiment fiable, valable? Quand on parle donc des 8 dharmas mondains, on en avait peut-être déjà parlé ici, c'est le gain, c'est-à-dire être libre des 8 dharmas mondains, on appelle ça aussi les préoccupations temporelles. Préoccupation, ça veut dire c'est légitime de s'en occuper, mais le problème c'est quand ça devient une préoccupation, c'est quand on décide d'y mettre toute notre énergie, on mise vraiment là-dessus pour trouver un bonheur ultime. Et c'est là que ça va poser problème. Peut-être on peut aspirer à être aimé, c'est normal, c'est légitime, mais l'idée c'est de comprendre que ça sert à rien d'être préoccupé d'être aimé de tous, parce que là on risque de rencontrer une contrariété. Même dans l'éveil, on peut avoir le projet de s'éveiller pour être aimé de tous, peut-être. Ça peut se glisser dans notre aspiration. Quand je serai Bouddha, bah, je serai aimé de tous. Et lui, voilà. Notre aspiration, c'est ça, on risque d'être contrarié au bout d'un moment. Ça devient une préoccupation. Et si on voit les choses plus clairement, on se rend compte que non, on ne peut pas être aimé de tous, même si on devient un Bouddha, un être éveillé. C'est pas dans le projet. Ça fait pas partie de. C'est pas ça l'éveil. Être aimé de tous, ou ne plus tomber malade, ou éventuellement devenir immortel, etc. Non, ça c'est des plans sur la comète. Donc même dans notre aspiration spirituelle, on doit quand même être vigilant. Qu'est-ce qu'on recherche derrière l'éveil, derrière le bonheur? Parce que c'est donc ces préoccupations temporelles, effectivement, elles peuvent nous apporter une satisfaction, mais c'est pas garanti. D'abord, ce sera temporel, ce sera temporaire. La richesse, la popularité, c'est des choses qui sont temporaires, qu'on ne peut pas maintenir indéfiniment. La santé, la jeunesse, ça peut apporter une satisfaction, mais c'est pas une garantie. Et en plus, ça peut devenir une source de grande souffrance au moment où ça disparaît. C'est-à-dire, plus on aura misé dessus, plus on aura investi, plus on aura dépensé de l'énergie pour ces choses-là, plus il y a un potentiel qu'on souffre au moment où ça disparaît. Et le dharma, c'est vraiment un outil qui ne va pas chercher le bonheur dans le succès, mais qui va plutôt être un outil pour nous préparer justement au fait que ces choses-là puissent disparaître. C'est un outil qui nous permet de travailler, donc on va dire, sur soi, sur notre esprit, et nous permet de faire face justement à cette situation où les choses vont et viennent, apparaissent et disparaissent. Donc quand on dit « je prends refuge dans le Bouddha », ça veut dire « j'aspire à l'éveil comme seul refuge contre la souffrance ». Je considère que c'est la seule façon de me libérer véritablement de la souffrance. Donc je ne cherche plus le bonheur à l'extérieur, dans les choses du monde, même si c'est légitime de s'en occuper, mais de ne pas s'en préoccuper, de revisiter mes priorités. Il y a des choses qui sont prioritaires. Ça, il faut s'en occuper. C'est important de gagner de l'argent. C'est important d'avoir de l'argent. Mais comprendre que où se situe ma priorité. Ma priorité, c'est de me libérer de la souffrance. Donc de comprendre que l'argent, le succès professionnel, la popularité, enfin voilà, le fait d'être aimé, etc. C'est les choses dont on s'occupe, mais ça ne peut pas être un refuge ultime contre la souffrance. Donc voilà, quand je prends refuge dans le Bouddha, c'est quelle est la priorité. Et ensuite vient le refuge dans le Dharma. C'est une fois que j'aspire à l'éveil, bah, le Dharma, c'est tout ce qui va me permettre justement de faire face à tout ce qui arrive. Donc ça englobe tous les enseignements du Bouddha, tous les outils que nous donne le Bouddha pour justement travailler sur notre esprit, travailler sur notre façon de voir les choses, nos émotions. Et en même temps, on va trouver le Dharma dans toutes les situations de la vie. On peut trouver, c'est aussi ça l'objectif des enseignements du Bouddha, c'est de nous faire réaliser que le Dharma est toujours sous nos yeux. On peut le trouver dans toutes les situations de la vie quotidienne, ne serait-ce que quand on rencontre un dukkha. Quand on rencontre une contrariété, bah, pour le pratiquant bouddhiste, une contrariété, ça veut dire le symptôme d'une illusion. Si je rencontre un dukkha, c'est quelque part, je me raconte une histoire. Je ne vois pas les choses clairement. Donc j'ai toutes les informations à ce moment-là. Je rencontre un dukkha. Qu'est-ce que me raconte cette contrariété? Quelle information elle me donne pour que je puisse revenir un peu sur ma façon de voir les choses et revisiter ça. Et ensuite, le refuge dans la sangha, c'est comprendre que c'est difficile de faire le chemin tout seul. Il y a des gens qui ont commencé le chemin, il y a des gens qui sont arrivés au bout du chemin. Le Bouddha lui-même, en fait, a fait le chemin par lui-même, mais justement pour nous éviter de faire des détours, pour nous éviter de le faire tout seul, et puis, quelque part, faire des détours qui risquent, en fait, de nous empêcher d'arriver à l'objectif, quoi. Donc on a besoin en fait non seulement d'une guidance, c'est-à-dire d'amis spirituels, de gens qui sont plus avancés, mais en plus on a besoin de pratiquer ensemble, une sorte de solidarité, quoi. On est tous dans la même galère, mais en même temps il y a des gens qui aspirent à l'éveil et donc aspirent à pratiquer la vertu. C'est ça, le terme sangha, c'est celui qui aspire à la vertu. Et ça va nous permettre de nous épauler les uns les autres, de nous influencer. Quand on voit quelqu'un qui est face à une situation, on le sent juste. Il arrive à avoir une parole juste, une parole adéquate, appropriée, une réaction appropriée à ce qui se passe. Ça peut nous servir d'inspiration. C'est pas seulement le club des bouddhistes, c'est-à-dire on peut avoir ce genre de bonne influence dans notre entourage, etc. Tiens, un collègue de travail qui a à ce moment-là qui a une attitude qui nous a c'est paru ajusté, ça va être une influence, et on est touché par ça. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour être touché, pour être réceptif à ça, parce que, quelque part, la bienveillance, la bodhicitta, c'est la nature de ce que nous sommes. Du point de vue bouddhiste, on est fait de cette nature-là, donc quand on perçoit la bienveillance autour de nous, on est réceptif, ça nous touche, ça nous réjouit. Donc, en tant que pratiquant bouddhiste, on est réceptif, mais aussi on devient émetteur. C'est-à-dire quand notre pratique, même si dans le quotidien c'est pas évident, quoi, de pas se laisser submerger, mais n'empêche que quand on arrive à avoir une parole, ne serait-ce que une vigilance dans le contexte professionnel. N'hésite pas si tu as besoin de boire un verre, etc. Tu fais comme chez toi, j'allais dire. Oui, quand on fait preuve de. On arrive à garder la tête hors de l'eau et on arrive à garder une certaine maîtrise de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Faut avoir confiance que non seulement c'est faut se taper sur l'épaule. Plutôt que se dire « ouais, j'ai pas réussi à être totalement détendu, j'ai pas réussi à être totalement dans la pratique, etc. » On se met beaucoup de pression, hein. On le voit, on parlait tout à l'heure, le contexte professionnel, parfois, ça nous renvoie tellement d'absurdité que on est facilement submergé et puis c'est difficile de trouver du sens quoi parfois. Mais en même temps, voilà, quand on arrive à ne serait-ce qu'avoir un peu de recul pour un peu de maîtrise dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, bah faut se taper sur l'épaule et avoir confiance que ça a des répercussions. Ça, il faut avoir confiance que ça c'est quelque chose de positif et ça va éclabousser. Dans le bon sens du terme, ça va rayonner. Il y avait quelqu'un qui me disait hier, ouais, c'est difficile. Parce qu'on disait, voilà, le bouddhisme c'est particulier, c'est une voie où on n'essaye pas de changer le monde, on essaye de se changer soi-même et c'est ça qui change le monde. Et cette personne me disait, j'ai un peu de mal avec ça parce que, avec ce qui se passe en Syrie, etc., vraiment, rester assis sur mon coussin, j'ai du mal à m'y retrouver là-dedans, quoi, avec cette vue bouddhiste un peu. Mais en fait, c'est pas la pratique bouddhiste de rester assis sur le coussin. Rester assis sur le coussin, c'est pas ça le bouddhisme. Ça, c'est l'outil qui me permet de développer une plus grande vigilance, une plus grande connaissance de comment fonctionne mon esprit. Mais le pratiquant bouddhiste, la pratique bouddhiste, c'est pas de rester assis sur un coussin. La pratique bouddhiste, c'est d'avoir une forme de clarté sur ce qui se passe. De façon à justement avoir ne plus être en réaction par rapport aux choses, mais être dans l'action. Réaction, c'est un conditionnement. S'il y a une situation qui émerge, eh ben on a tous nos conditionnements. Il y a telle ou telle situation qui se passe, eh ben on a tous cette façon de réagir. On a toujours tous des schémas karmiques, des schémas de réaction tout fait. Et notre aspiration à l'éveil, c'est le déconditionnement. C'est ça l'éveil, c'est... absence de conditionnement. Je me déconditionne pour pouvoir passer à l'action. Action, ça veut dire, c'est justement pas poussé par les facteurs perturbateurs, mais une action qui est juste. Et plus on est clair, plus on communique facilement, plus on agit de manière ajustée. Et c'est ça l'enjeu, c'est ça qui est intéressant. C'est notamment dans la communication. On en reparlait dans la voiture. C'est difficile de... Bah dans le contexte professionnel, on voit hein, énormément de problèmes viennent d'un problème de communication, de malentendus, etc. On n'arrive pas à communiquer, etc. Mais on a des atouts, nous, avec la pratique. La méditation, ça va nous permettre justement de voir, parce que parfois c'est un peu confus, qu'est-ce qui m'appartient, voilà, là où c'est moi qui réagis de manière confuse, et qu'est-ce qui appartient à l'autre, parfois on sait pas trop, mais plus on clarifie ça, plus bah, quand ça m'appartient, bah, je travaille sur mes conditionnements, et voilà, j'apaise, quoi, s'il y a un facteur perturbateur, mais quand c'est l'autre qui est dans une confusion, et bah, je vois que ça lui appartient, et donc du coup, bah, je peux... m'autoriser à ne pas être affecté. Et donc, tout ça, ça va énormément aider à la communication. À pouvoir dire les choses. Simplement. Sans arrière-pensée. Enfin voilà, on est clair avec nos intentions. Donc, si on est clair avec notre intention, on peut se permettre de dire les choses. Et parfois, c'est pas forcément bien reçu, les choses qu'on dit. Mais on sait que ça nous appartient plus, quoi. On dit les choses, on n'avait pas de mauvaise intention, on dit les choses parce que tout simplement, il y a des choses qui doivent être dites, quoi. Et justement, quand on voit quelque chose et qu'on le dit, on n'est pas dans l'indifférence à ce moment-là. Mais quand on arrive à ne pas être dans la différence, se sentir concerné par les choses sans être affecté, ça n'a pas seulement des répercussions au moment où c'est dit, ça n'a pas seulement des répercussions sur moi et sur la personne. Du point de vue karmique, ça a des répercussions sur tout le continuum. C'est ça qui est très important dans le bouddhisme, c'est quand on laisse passer, on a toujours un choix. Le karma, c'est un libre arbitre. C'est soit j'agis poussé par les conditionnements, par exemple, il y a une irritation eh ben je réagis à l'irritation et puis je m'emporte et puis je dis des choses dures ou cinglantes à la personne. Soit effectivement, je suis vigilant, je vois cette irritation à l'esprit et je décide d'agir, mais pas poussé par l'irritation, mais je décide d'agir avec la patience, en pratiquant la patience. Ça, c'est important parce que du point de vue bouddhiste, quand on fait ça, on n'agit pas seulement à l'instant T, on agit sur le continuum de conscience. D'ailleurs, on renverse le karma. Si on avait le karma de quelqu'un de... le karma d'un colérique qui agit, ça aura des répercussions non seulement au moment où on le fait, mais on inscrit un programme dans notre continuum de conscience. Donc on inscrit la potentialité de réagir de la même façon à la situation similaire suivante. Je me fais comprendre? Donc en fait, on agit dans... on plante cette graine pour l'éternité suivante, entre guillemets. Mais si... on peut aussi renverser ce programme. C'est-à-dire, il y a une situation d'irritabilité, j'ai toujours le libre arbitre, j'ai toujours la possibilité de transformer le karma. Au lieu de devenir le karma d'un colérique, devenir voilà, un karma colérique, eh ben je pratique la patience et à ce moment-là, ben, je plante cette graine pour l'instant présent, mais pour l'instant à venir aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est une boule de neige, quoi. Et quand je fais ça, ça a des répercussions qui sont beaucoup plus vastes que mon continuum de conscience. C'est l'éternité suivante, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'on travaille du point de vue bouddhiste. Quand la personne me disait, bah ouais, mais la Syrie, voilà, c'est les trucs. En fait, déjà, ce qui est chouette, sa réaction, c'est que déjà, elle n'est pas indifférente à ce qui se passe. S'il n'y a pas d'indifférence, effectivement, il n'y a pas forcément de possibilité d'agir. Et là, ce qui l'embêtait, c'est ce problème d'impuissance. Mais c'est vrai que nous, en tant que bodhisattva, si on ressent cette impuissance, c'est pas mauvais en soi, en fait. Il y a quelque chose de juste dans l'impuissance. Quand on est, même si on devient un Bouddha, il faut comprendre qu'on ne devient pas un super-héros. On ne devient pas un sauveur. Le bodhisattva, c'est pas un sauveur, c'est pas quelqu'un qui a la possibilité de... voilà, tu souffres, ben, je viens te sauver, Superman, etc. Je te prends et puis... c'est pas ça, un Bouddha. Sinon, ça fait bien longtemps qu'on serait libéré de la souffrance. Parce que tous les Bouddhas ont cette aspiration d'aider les autres, mais ils peuvent juste nous montrer le chemin. Ils peuvent pas faire le chemin à notre place. Même le Bouddha Shakyamuni n'a pas pu le faire. Mais par contre, il nous donne les outils. Il peut nous montrer comment nous libérer de la souffrance. Et quand on dit qu'on souhaiterait être utile aux autres, il faut être clair avec ça. L'idée, c'est pas de devenir un super-héros. Ça, on peut pas. Être utile aux autres, au contraire, c'est... du point de vue du bodhisattva, c'est vraiment arriver à se mettre en disponibilité par rapport aux autres. Être vraiment à l'écoute des autres. Donc ça demande énormément d'humilité. Pour pouvoir... être réceptif à l'autre, entendre ce qu'il a à dire et justement ajuster de quoi cette personne a besoin. Voilà, quelqu'un qui parle de ses difficultés, voilà, qui nous parle de ses difficultés, peut-être qu'elle n'attend pas forcément un conseil. Parfois, dans l'idée d'aider l'autre, on peut se surprendre à vouloir absolument donner un conseil, quoi, alors que c'est pas forcément ce que demande la personne. Elle nous parle juste de ses difficultés et parfois on peut se rendre compte que rien que le fait de l'écouter, bah, à la fin de la discussion, la personne lui dit eh bah, merci de m'avoir écouté, dit, oh, bah, écoute, j'ai rien fait. Puis elle se sent, y a des gens hein, qui sont très ça les aide beaucoup de parler, des gens qui sont très à l'aise avec ça et ils résolvent beaucoup de problèmes en discutant. Moi j'ai des amis comme ça, hein. Je sais, hein. c'est comme ça qu'ils résolvent le problème. Ils passent un coup de fil, ils sont très à laver avec ça, ils parlent, hop, ça va mieux.
C'est l'autre. Merci.
Bah, merci mon pote, bah écoute de rien. Clac. Et si on est ce genre de personne, bah, c'est chouette en fait. C'est juste qu'on a besoin d'un interlocuteur parce que ça nous aide à formuler des choses et en formulant les choses, voilà. Et nous, bah, on a notre rôle à tenir. Si on est dans le rôle de l'auditeur, bah, justement, d'être aussi en méditation à ce moment-là, aussi en vigilance. je suis présent à ce qui se passe, présent à ce que demande la personne. Et si la personne ne demande pas, ne pose pas de questions, ne demande pas un conseil, etc., bah, il n'y a pas lieu de donner. Voilà, c'est ça aussi, être présent à l'autre, c'est vraiment cette présence qui. Comment je peux être utile à ce moment-là? Et vraiment, l'apanage des grands bodhisattvas, bah, c'est justement cette humilité. C'est un critère, justement, de. On reconnaît les grands bodhisattvas, c'est cette humilité, toujours, et avec tout le monde. Je ne sais plus pourquoi je parle de ça.
C'est très bien. C'était la Sangha.
La Sangha, voilà, le refuge dans la Sangha.
Le Dharma et la Sangha. Ouais.
Donc oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voilà, quand on aspire à l'éveil et quand on dit aider les autres, ce serait plutôt plus juste de dire être utile aux autres. Mon souhait, c'est d'être utile aux autres. Et c'est comme ça qu'on aide les autres, en étant en se rendant en disponibilité, self-service, de quoi tu as besoin. Ah oui, on parlait de la communication. Et voilà, de cette personne voilà, qui était préoccupée de ce qui se passe en Syrie, bah, déjà, voilà, le fait qu'elle ne soit pas indifférente, c'est chouette, ça. Quand on est indifférent à une situation, bah, quelque part, on plante les graines pour être indifférent à des problèmes peut-être même plus graves. L'indifférence, c'est un facteur perturbateur et c'est un conditionnement. Si on est indifférent à des petites choses, y a un potentiel qu'on soit indifférent de plus en plus. On plante une habitude à être indifférent. Donc, alors que quand on justement on travaille sur ce facteur perturbateur, l'indifférence, et quand on se sent de plus en plus concerné par ce qui arrive à l'autre, bah peut-être qu'un jour on sera confronté à ce qui se passe directement, à un problème similaire à la Syrie, avec des moyens d'agir, parce que voilà, ça sera à ce moment-là de notre sort, ça sera Et donc du coup, on pourra agir, parce que justement on ne sera pas indifférent, on sera concerné. Aujourd'hui on peut être concerné par ce qui se passe en Syrie, mais les moyens sont peut-être limités pour agir. C'est pas forcément... évident, quoi. Même on peut avoir le projet d'aider, et puis on a un travail, on a un foyer, etc. Ça serait peut-être stupide de se dire bon, je vais tout plaquer pour aller m'occuper de ça. Il y a ce qu'il faut comprendre dans le projet d'éveil, c'est que le samsara, il était déjà là avant, il est là et il sera toujours là. Le samsara, c'est un état, ça désigne un état confus de notre esprit. Ce qui se passe en Syrie, si ça se termine en Syrie, on peut observer que c'est quelque chose qui se répète. Ça se passe en Syrie, si c'est pas en Syrie, ça sera aux États-Unis, si c'est pas aux États-Unis, ça sera en Indonésie. Ça, c'est le samsara. C'est ça, le samsara. Et effectivement, dans notre... Dans la vision du bodhisattva, c'est tant qu'il y aura un être dans le samsara, je continuerai d'œuvrer. Mais si j'y mets une finalité, le risque, c'est de me décourager. Quand on parle de la compassion, il y a une définition que j'ai appris récemment, que j'aime bien. La compassion, c'est non-goal-oriented. Ça veut dire non-goal-oriented, ça n'a pas de finalité, la compassion. Ça n'a pas l'ambition d'aboutir. La compassion, c'est la compassion. C'est quelque chose qui s'élève quand on rencontre la souffrance, et ben ça nous bouge. Mais ça ne nous bouge pas dans l'espoir d'une finalité. Par exemple, il y a des gens voilà, depuis qu'ils pratiquent le bouddhisme, par compassion, il y en a qui ont décidé de réduire leur consommation de viande, ou même carrément devenir végétarien, par compassion. Parce que, voilà, ils se rendent compte que le fait de manger de la viande tous les jours, etc., ou au maximum manger trop de viande, c'est ce qui a déclenché l'élevage intensif, etc. Et donc, non seulement c'est un abattage en masse d'animaux, mais en plus, ça les condamne à des vies de souffrance. Et par cette réflexion-là, voilà, il y en a qui ont décidé, par compassion, de ralentir, de réduire leur consommation de viande. Parce que. Mais il n'y a pas de jugement moral dans la compassion. C'est pas. Je vais rentrer dans le club des gens bien, parce que je ne mange pas de viande. Et donc, du coup, si toi tu manges de la viande, etc., toi tu es quelqu'un de pas bien. C'est pas ça la compassion. La compassion, c'est. Je vois l'animal souffrir et je me mets à sa place et je ne veux plus participer de ça. Ça me regarde, c'est quelque chose de personnel à ce moment-là. Enfin, de. Comment dire, c'est pas quelque chose de moral, la compassion. C'est je ne peux pas ne pas le faire. J'aime bien, moi, cet exemple que je prends souvent du Dalai Lama. Il y a quelqu'un qui lui disait votre sainteté, ça fait des années que vous œuvrez, que vous dispensez l'enseignement, que vous œuvrez pour le bonheur dans le monde, etc. Et ça ne vous décourage pas de voir que ça fait 20 ans que ça n'a pas changé, en fait. Il disait, je ne peux pas ne pas le faire. Ça, c'est vraiment la philosophie du Bodhisattva. Je ne peux pas ne pas le faire. Et puis, même si c'est pour un seul être, je le ferai. Parce que c'est ça, la compassion. C'est pas un sentiment, la compassion. C'est un élan. Je vois la souffrance, je ne peux pas ne pas le faire. Je suis poussé par la compassion. Et peu importe si ça marche ou pas. On dit le découragement, ça brise le bodhisattva. Et pour justement nous immuniser contre le découragement, la compassion, on ne doit pas attendre de résultats. On le fait parce qu'on est poussé par la compassion. Ça se satisfait, voilà, ça se satisfait par. C'est la compassion, quoi. Et l'histoire qui illustre ça, c'est la géographie de Chenrezi. La géographie de Chenrezi, c'est pas une. C'est un mythe. Mais y a un fort symbolisme derrière. On dit Chenrezi, voilà, a œuvré pendant des kalpas pour le bien des êtres. Et puis un jour, il se retourne. Et puis il fait le bilan. Et il voit qu'il y a toujours autant de souffrance dans le samsara. Et il a un instant de découragement. Et conformément au vœu qu'il avait pris, d'œuvrer sans cesse pour le truc, de par ce découragement, à ce moment-là, il y a une interruption. Il baisse les bras. Donc il brise ses vœux de Bodhisattva et on dit, conformément à ses vœux, il éclate en mille morceaux. Alors papa Amitabha voit ça, et puis finalement recolle les morceaux de Chenrezi et lui donne 1000 bras. Les 1000 bras de Chenrezi, à ce moment-là, c'est pour illustrer que Chenrezi se relève de ça. Il comprend que c'est les découragements qui lui a fait interrompre son activité et il décide de plus jamais se décourager. Et à ce moment-là, il obtient les moyens. 1000 bras, beaucoup plus de moyens pour aider les êtres, du fait de plus jamais se décourager. Parce qu'il attend plus d'objectifs, plus de finalités. C'est même si c'est pour un être, puis-je œuvrer pendant les kalpas et kalpas. C'est un peu ça l'idée de. Même si on est végétarien, on n'est pas là pour faire la guerre. On est végétarien par compassion, et pas dans l'espoir que plus personne ne mange de la viande et que les animaux n'éprouvent plus de. Non, on le fait parce que, voilà, la compassion. Point barre. Il n'y a pas de finalité. Voilà, ça c'est important dans notre. Parce que ça nous évite de devenir des intégristes. Et voilà, on va faire la guerre aux gens qui ne sont pas végétariens. Ou alors, jugement moral, lui pas bien. Alors que moi bien, quelqu'un de juste. Et je suis dans l'éthique. Moi, ça c'est pas bon. Ça c'est encore l'orgueil qui récupère et on devient. Il y a un gros piège, quoi, là-dedans. Et ça aussi, ça nous évite de, quelque part, de focaliser uniquement sur les choses. Bien sûr, parfois on se sent impuissant par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Syrie. Mais on sait que le samsara aussi, c'est ça. C'est-à-dire, voilà. C'est le samsara, mais il y a aussi beaucoup de choses chouettes. Et ça, Rinpoche nous le disait ce week-end, on a une façon de... On s'informe toujours de la même manière. On va puiser l'information toujours au même endroit. Et il faut voir que l'information qu'on nous donne dans les médias les plus communs, c'est uniquement ce qui va mal. C'est ça qui fait de l'audimat, etc. Mais à aucun moment, on va nous dire ce qui se passe bien. Et pourtant, il y a des choses qui se passent, qui sont chouettes. Et faut aussi revoir notre manière de nous informer. Si on cherche une information plus objective, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a toujours le samsara, mais effectivement, il y a beaucoup de puissance positive, beaucoup de force positive de gens qui travaillent sur eux, et donc qui travaillent sur eux non seulement de manière individuelle, mais en plus qui se joignent à les gens qui travaillent sur eux. La sangha, c'est ça, hein, sangha au sens large, hein, pas seulement la sangha bouddhiste, mais il y a ce côté-là de d'unir nos forces, d'unir voilà, notre pratique de la vertu, parce qu'on vise voilà, un bonheur durable, et il y a énormément de choses qui ont des répercussions très puissantes. Donc dans l'information, il faut voir aussi comment ça forme. Si on cherche une information objective, il faut comprendre que ouais, faut revoir la manière dont on s'informe. Il y a des gens qui diffusent des informations plus objectives, et qui souligne aussi les choses, tous les mouvements positifs. Voilà, ça va nous immuniser contre le découragement. Et nous permet de rester en activité, quoi. Bah oui, ouais, la Syrie, mais vous verrez, hein, la Syrie, si un jour ça se résout, faut pas croire, quoi. Ça va rejaillir, ça a toujours été comme ça. Parce que ça, c'est le samsara, c'est pas le monde. Le bouddhisme ne cherche pas à changer le monde. Voilà, je retrouve le fil. Le bouddhisme ne cherche pas à changer le monde. C'est un outil pour se changer notre regard sur le monde. Et c'est ça qui change le monde. Mais le monde en soi, c'est pas tant le problème. Le problème, c'est le samsara. Et le samsara, ça désigne pas le monde, la planète dans laquelle on vit. Ça désigne l'état confus de notre esprit qui déclenche les facteurs perturbateurs, l'avidité, la colère, l'aversion, la jalousie, voilà, tout ce qu'on appelle les facteurs perturbateurs. Ça, c'est le samsara, mais c'est pas le monde. Alors, je vous propose de conclure par une... Et puis après, on passera aux choses sérieuses. Du fer, de conclure par une petite prière de Shantideva. Je vous la fais passer. Hein. Donc, c'est une prière qui est extraite d'un ouvrage qui s'appelle La Marche vers l'éveil, qui est un grand classique de la littérature bouddhiste, sur lequel s'appuie énormément le Dalai Lama, c'est vraiment son bouquin de chevet, entre guillemets. Shantideva, c'est un maître indien. Je sais plus de quel siècle, mais il est très connu parce que justement, c'est encore la génération des maîtres indiens,
6-7e
donc assez proche du Bouddha.
6-7e siècle.
6-7e siècle, ouais, c'est pas impossible. C'est des souhaits. S'il en manque, hein, j'en ai d'autres. Hein. Ça tourne le paquet là. A pu ? Persuadé d'en avoir un gros bloc. Alors la récitation de souhait, donc il y a beaucoup d'écoles du bouddhisme qui mettent l'accent sur les souhaits, mais particulièrement le bouddhisme tibétain. Dans le bouddhisme tibétain, la récitation de souhaits, c'est un support de méditation super commun, très utile, très pratique, parce que d'abord, en général, les souhaits, ce sont des des écrits composés par des très grands maîtres, donc avec une portée illimitée, donc ça nous inspire, parce que le but de réciter ses souhaits, c'est qu'on se les approprie. C'est, peu importe finalement qui les a écrits, on s'approprie cette portée illimitée, comme si c'était nous qui l'a avec les récitions, et on essaye de le réciter avec les cœurs, le cœur. Et c'est une méditation dans le sens où on se rend très vite compte quand on est distrait, c'est-à-dire quand est-ce qu'on lit et puis qu'on... on n'accompagne pas ce qu'on est en train de lire. La méditation consiste justement à arriver à accompagner chaque phrase qu'on dit de l'esprit jusqu'au bout, sans décrocher. Et c'est pour ça qu'on les récite plusieurs fois. Alors parfois il y a des recueils de textes, c'est comme ça quoi. Hein, les Kagyumenlam, pour ceux qui font les Kagyumenlam, voilà, c'est ça le principe. Hein. On récite des trucs comme ça toute la journée et on essaye d'être présent. C'est-à-dire de ne pas penser à autre chose, quoi. Bah, si on arrive, ne serait-ce que pendant une demi-heure, à accompagner tout ce qu'on dit, bah, n'empêche que l'esprit, après, il se sent porté, quoi.
On prend ça en tibétain, c'est...
Oui, alors en tibétain, voilà, c'est ça le... Oui, mais c'est que là, l'exercice est encore plus dur. On lit le tibétain et en plus, en même temps, il faut garder un œil sur la traduction. Amour, compassion, oui, d'accord. On a l'idée, mais c'est pas évident, quoi. Là, moi j'aime bien ce texte-là parce qu'il est court, j'adore la traduction, et en plus le langage, c'est pas un jargon bouddhiste, hein, c'est très universel. Hein. Alors voilà, je vous propose qu'on le récite voilà, plusieurs fois.
Et puis voilà, on fait... C'est fait pour s'en imprégner.
Ouais, pour s'en imprégner, puis on essaye d'accompagner chaque phrase. Puissais-je être le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, et pour ceux qui aspirent à l'autre rive, être une barque, un pont, un gué. Puissais-je être pour tous les êtres, celui qui calme la douleur. Puissais-je être médecin et remède. Puissais-je être celui qui soigne, jusqu'à la guérison complète, tous ceux qui souffrent en ce monde. De même que l'espace, la terre et les éléments, puissais-je toujours soutenir la vie des êtres en nombre illimité, et tant qu'elles ne seront pas libérées de la souffrance, puissais-je aussi être source de vie pour les créatures innombrables qui peuplent l'espace infini. Puissais-je être le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, et pour ceux qui aspirent à l'autre rive, être une barque, un pont, un gué. Puissais-je être pour tous les êtres, celui qui calme la douleur, puissais-je être médecin et remède, puissais-je être celui qui soigne jusqu'à la guérison complète tous ceux qui souffrent en ce monde. De même que l'espace, la terre et les éléments, puissais-je toujours soutenir la vie des êtres en nombre illimité, et tant qu'elles ne seront pas libérées de la souffrance, puissais-je aussi être source de vie pour les créatures innombrables qui peuplent l'espace infini. Puissais-je être le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, et pour ceux qui aspirent à l'autre rive, être une barque, un pont, un gué. Puissais-je être pour tous les êtres, celui qui calme la douleur. Puissais-je être médecin et remède. Puissais-je être celui qui soigne jusqu'à la guérison complète tous ceux qui souffrent en ce monde. De même que l'espace, la terre et les éléments, puissais-je toujours soutenir la vie des êtres en nombre illimité, et tant qu'elles ne seront pas libérées de la souffrance, puissais-je aussi être source de vie pour les créatures innombrables qui peuplent l'espace infini. Puissais-je être le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, et pour ceux qui aspirent à l'autre rive, être une barque, un pont, un gué. Puissais-je être pour tous les êtres, celui qui calme la douleur. Puissais-je être médecin et remède. Puissais-je être celui qui soigne jusqu'à la guérison complète tous ceux qui souffrent en ce monde. De même que l'espace, la terre et les éléments, puissais-je toujours soutenir la vie des êtres en nombre illimité, et tant qu'elles ne seront pas libérées de la souffrance, puissais-je aussi être source de vie pour les créatures innombrables qui peuplent l'espace infini. Puissais-je être le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, et pour ceux qui aspirent à l'autre rive, être une barque, un pont, un gué. Puis ces êtres pour tous les êtres, celui qui calme la douleur. Puis ces êtres médecin et remède. Puis ces êtres celui qui soigne jusqu'à la guérison complète tous ceux qui souffrent en ce monde. De même que l'espace, la terre et les éléments, puissais-je toujours soutenir la vie des êtres en nombre illimité, et tant qu'elles ne seront pas libérées de la souffrance, puissais-je aussi être source de vie pour les créatures innombrables qui peuplent l'espace infini. Puissais-je être le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, et pour ceux qui aspirent à l'autre rive, être une barque, un pont, un gué. Puissais-je être pour tous les êtres, celui qui calme la douleur. Puissais-je être médecin et remède. Puissais-je être celui qui soigne jusqu'à la guérison complète tous ceux qui souffrent en ce monde. De même que l'espace, la terre et les éléments, puissais-je toujours soutenir la vie des êtres en nombre illimité, et tant qu'elles ne seront pas libérées de la souffrance, puissais-je aussi être source de vie pour les créatures innombrables qui peuplent l'espace infini. Puissais-je être le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, et pour ceux qui aspirent à l'autre rive, être une barque, un pont, un gué. Puissais-je être pour tous les êtres celui qui calme la douleur. Puissais-je être médecin et remède. Puissais-je être celui qui soigne jusqu'à la guérison complète tous ceux qui souffrent en ce monde. De même que l'espace, la terre et les éléments, puissais-je toujours soutenir la vie des êtres en nombre illimité, et tant qu'elles ne seront pas libérées de la souffrance, puissais-je aussi être source de vie pour les créatures innombrables qui peuplent l'espace infini. Alors on peut terminer par un petit temps de méditation. Ça peut être une opportunité pour recontacter notre bonté fondamentale, même si on peut se dire qu'aujourd'hui on a peut-être manqué de vigilance, on n'a pas été très présent, on n'est pas forcément fier de ce qui s'est passé, peu importe en fait, au moment où on pratique la méditation, on peut laisser de côté tout passé et dans l'instant présent utiliser cette opportunité pour remettre les compteurs à zéro et recontacter cette bonté fondamentale. Et si on se sent pas forcément inspiré, ben on peut lui donner une forme. Imaginez au centre de notre cœur, au niveau du plexus, une petite sphère blanche, irradiante, comme un soleil. Qui irradie autour de nous. L'espace. En tout cas, merci à tous pour cette année de Chöling. Enfin voilà, j'ai toujours trouvé que l'accueil à Meudon était super, très encourageant, très porteur. Merci à Yves de m'avoir hébergé Ouzbékistan et puis d'être s'occuper du Tchéling. Enfin, vraiment, c'est précieux. Merci à Laurent de faire vivre le Tchéling en dehors de l'enseignement mensuel. Ouais, donc, hein, moi je dis toujours. Merci à Marie de m'accueillir à Paris à chaque fois que je viens.
Merci à toi, malgré les grèves.
Merci beaucoup.
Il y a un bon karma à Meudon parce que les grèves, parce que mille être à la poste. Même pas.
La SNCF, on ne connaît pas ici. Pas de gare.
Surtout pas.
Merci à toi de me dire merci.
On fait la dédicace ?
Oui.
Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Je ne sais pas comment va se dérouler l'année prochaine. Je sais pas. Alors, beaucoup de personnes aimeraient bien qu'on voit Lojong, l'enseignement de Lojong dans les Tchéling. Après, je ne sais pas trop si Lama va reprendre les Tchéling. En fait, je vous dis ça parce que Rinpoche l'a interpellé. Il y a 15 jours, enfin, il a fait la requête que Lama Sultrim enseigne plus. Ça se fait, hein. C'est très méritoire en fait de demander au Lama d'enseigner. Donc après, Lama, voilà, il a ses raisons, etc. Mais c'était chouette de voir Rinpoche, tout Rinpoche qu'il est, bah, de faire la requête de l'enseignement. Vous connaissez peut-être la prière en sept branches. C'est vraiment une prière qui est très... importante dans le bouddhisme tibétain. C'est une prière importante parce qu'elle est très méritoire. On dit que c'est très méritoire d'accumuler des prières à sept branches. Et dans une des branches de cette prière, il y a la requête au Bouddha, au Bodhisattva, de rester parmi nous, de ne pas partir pour le Nirvana, et de rester pour enseigner, pour faire tourner la roue du Dharma. Et on dit voilà, que c'est très méritoire de solliciter, d'inviter les lamas à enseigner. Ouais. C'est pour ça que Lama Tsultrim, par exemple, à chaque fois que Rinpoche a terminé son week-end, il l'invite pour l'année prochaine, puissiez-vous revenir, puissiez-vous continuer à enseigner. Et là, c'est drôle de voir Rinpoche, bah, du coup, qui invitait Lama à enseigner plus, etc. Donc voilà, pour en avoir parlé un petit vite fait avec lui, je lui ai demandé comme ça, est-ce que... tu comptes reprendre les Tchéling, etc. Il m'a dit que, a priori, non. Voilà, il m'a répondu parce que
ça fatigue. Les
trajets, ça fatigue, mais bon, je sais pas, hein, peut-être ça peut changer, peut-être, j'en sais rien. Donc, j'en discutais avec lui. Et puis, voilà.
C'est passé. Non.
Je pensais, l'enseignement du Lojong, c'est un enseignement que j'aime beaucoup. Ça me ferait plaisir d'enseigner ça. Alors peut-être à partir de l'ouvrage de Rinpoche, justement, de l'entraînement de l'esprit. Voilà, peut-être partir de ça. Voilà.
D'accord. Mais de toute façon, on reprend en septembre.
Oui, en tout cas, Chéline reprend en septembre. Voilà.
Ok. D'accord.
Comment ?
Le
Lojong, donc ça veut dire l'entraînement de l'esprit, l'entraînement de l'esprit. Et donc souvent on s'appuie sur un texte dont le texte à racine vient d'Atisha, un très grand maître, et il a été condensé en sept points. On parle des sept points de l'entraînement de l'esprit. C'est sept points, donc ça donne un texte qui est très court, très concis, mais dans ce texte, finalement, on peut retrouver toute l'essence du bouddhisme. Et c'est un texte qui met énormément l'accent sur la compassion. C'est une voie en fait qui utilise, donc vraiment le point central de Lojong, c'est d'utiliser l'adversité comme voie d'éveil. Toute adversité est utilisée comme un carburant pour s'éveiller. Donc voilà, on place l'adversité au cœur de notre pratique, ça devient le support en fait de la pratique. Et quelque part, si on comprend bien cet enseignement, alors effectivement, il y a une pratique formelle qui est associée au Lojong qui s'appelle le Tonglen, prendre et recevoir. Donc là, c'est la pratique formelle. Mais à la limite, l'enseignement du Lojong, c'est une vue, une façon de voir les choses qui fait qu'on transforme toute adversité devient une opportunité. Et si on comprend bien cet enseignement, bah, il n'y a même plus besoin de pratique formelle. Un pratiquant de Lojong, il n'a plus besoin de s'embarrasser, entre guillemets, de méditation sur le coussin, enfin de quelque chose de formel. C'est vraiment une façon de pratiquer. Et qui nous emmène du début du chemin jusqu'à la fin du chemin. Le Lojong, c'est vraiment un enseignement complet. Et l'idée, c'est de... Donc ça met l'autre au cœur de notre pratique. C'est arriver à déplacer notre attention sur le moi, qui est focalisé sur le moi, sur le nous. On change de perspective. C'est pas moi et puis je m'écoute plus et puis vous, c'est... On intègre dans le nous. Donc, bah ouais, 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 c'est un truc.
On est d'accord.
On a chance. On transforme en pratiquant.
Ouais.
C'est ça, non?
Comment?
On transforme en pratiquant.
On transforme notre rapport à l'adversité, avec plein de petites moyens, de petites méthodes, de façons de voir. Alors ça fait appel à l'intellect, ça fait aussi appel à la méditation, mais c'est très habile parce que dans ces 7 points, ils ont vraiment poussé ils l'ont travaillé hein, le texte, c'est-à-dire on peut jamais tricher, on trouve toujours, c'est une petite liste de préceptes, et à chaque fois que l'ego veut récupérer, il y aura toujours un précepte qui va mettre l'ego en péril, quoi. Qui va le renvoyer à son... Et ce qui est intéressant, c'est que ça... Alors, effectivement, au départ, ça demande une familiarisation, on étudie les préceptes un par un, mais au bout d'un moment, on se retrouve embarqué dans les situations de la vie, et puis il y a un précepte qui nous revient, et puis ça nous... comme une gifle.
Ouais.
On est en train de, voilà, de satisfaire, de se complaire dans son petit moi, etc. Puis hop, il y a un petit précepte qui vient pile poil pour cette situation, quoi. Enfin voilà, je vais pas spoiler. Bon, à table.